Les informations avec Oana Favennec. Bonsoir Oana.
Bonsoir Antoine Janton, bonsoir à tous. La canicule atteint son paroxysme. Aujourd'hui, Paris n'a jamais eu aussi chaud et les prisonniers souffrent, notamment à Marseille, depuis l'installation d'un système anti-bruit. La mort d'un chef d'État, Béji Caïd Essebsi, président tunisien, ce matin à l'âge de 92 ans. Emmanuel Macron rend hommage à un ami de la France et un dirigeant courageux. La gauche espagnole n'a pas réussi à se mettre d'accord. Le socialiste Pedro Sánchez n'a toujours pas obtenu l'investiture des députés cet après-midi. Prochaine et dernière chance en septembre. Paris transpire. Le record absolu de température maximale vient d'être battu au centre de mesure de Montsouris. À 13h36, il a fait 40,6 degrés. Deux heures plus tard, 42,4 degrés. Depuis le début des mesures en 1873, Paris n'avait pas dépassé les 40 degrés. En fait, une seule fois, si. Le 28 juillet 1947, la France sous la canicule pour encore quelques heures. 20 départements du nord de la France se sont placés en vigilance rouge, 60 autres en vigilance orange. Seule la pointe de la Bretagne et le pourtour méditerranéen sont épargnés. Et dans cette fournaise, certains sont mieux lotis que d'autres. Dans certaines prisons, les détenus souffrent particulièrement de la chaleur. Bonsoir Ilan Malka.
Bonsoir Oana.
C'est le cas par exemple à la prison des Baumettes à Marseille.
Oui, alors plusieurs riverains de cet établissement pénitentiaire se sont plaints de nuisances, d'être insultés par des détenus. En conséquence, des dispositifs anti-bruit ont été installés dans plusieurs cellules du quartier des femmes. Dans les cellules concernées, les fenêtres ne peuvent désormais s'ouvrir que de manière vraiment très réduite. Les détenus s'en plaignent. Charline Becker est coordinatrice de l'Observatoire international des prisons pour la région Sud-Est.
Les femmes nous témoignent d'une chaleur abominable en cellule. La fumée des cigarettes reste en cellule, les odeurs de nourriture et celles des toilettes aussi. On a reçu une dizaine de témoignages à ce jour, avec en plus des témoignages de surveillants pénitentiaires.
De son côté, la DAP, la direction de l'administration pénitentiaire, essaye de modérer le constat. Les détenus peuvent se procurer des ventilateurs, nous assure-t-elle. La température dans ces cellules équipées de châssis anti-bruit est inférieure de 5 à 7 degrés à celle des autres cellules, poursuit la DAP. D'ailleurs, une détenue des Baumettes qui avait attaqué le dispositif en justice a été déboutée. Faut-il alors considérer que tout va bien ? Non, surtout pas, convient quand même la DAP, qui dit traiter avec attention particulière les difficultés qui sont remontées. Selon l'Observatoire international des prisons, ces difficultés sont nombreuses dans tous les établissements pénitentiaires, de manière générale, en cas de forte chaleur, comme c'est le cas en ce moment.
Lors de la canicule de juin, les températures ont atteint 45-46 degrés dans certaines cellules. Dans la plupart des maisons d'arrêt, il y a aussi un phénomène de surpopulation. Donc les personnes sont jusqu'à 3 dans 9 mètres carrés. Effectivement, la canicule est difficile pour toutes les personnes détenues.
Voilà donc Charline Becker qui souligne enfin que de nombreux établissements pénitentiaires français ont été construits avec des verrières, ce qui augmente encore davantage l'effet de chaleur.
Ilan Malka. Il fait également très chaud dans le nord de l'Europe. Plusieurs pays battent des records. Les Pays-Bas, la Belgique, il a fait 41,5 degrés en Allemagne et le mercure n'a pas fini de monter. Un enfant est mort dans le sud de l'Autriche hier, monté dans une voiture à l'arrêt. En ville, l'archidiocèse de Vienne invite les habitants à une pause fraîcheur et silence avec une campagne baptisée « L'église vous rafraîchit ». Isorias s'est rendu à l'église des Augustins dans le premier arrondissement de Vienne.
À deux pas de la célèbre Ringstrasse, artère qui abrite de nombreux monuments viennois, se dresse l'église des Augustins. D'ordinaire, les visiteurs s'y pressent pour se recueillir ou contempler son architecture. Mais aujourd'hui, Marie-Thérèse, une Autrichienne habituée des lieux, est venue aussi pour une autre raison.
C'est agréable par un jour comme celui-ci d'entrer dans une église car il fait frais. Je trouve ça bien qu'on puisse venir juste pour s'y rafraîchir.
Originaire du Portugal, Anna découvre Vienne pendant quelques jours. Après plusieurs visites dans le centre historique, elle n'a pas hésité à entrer dans cette église où le thermomètre affiche 24 degrés contre plus de 30 à l'extérieur.
Je vais parfois me reposer dans les églises lorsque je visite une ville car c'est l'endroit le plus frais et l'ambiance est calme. Même si je n'étais pas catholique, je viendrais ici, je crois, en tant qu'amatrice d'art, mais aussi pour faire une pause.
Comme pour une trentaine de lieux de culte, l'archidiocèse de Vienne a publié sur Internet la température à l'intérieur de l'église des Augustins pour inciter les personnes à y venir. Une initiative utile selon le père prieur Dominique.
Cela s'adresse aux gens qui ont besoin de se rafraîchir, que ce soit en raison de leur santé ou parce qu'ils sont âgés.
Ça permet également d'attirer des gens qui ont peu de contact avec l'Église ou qui n'y entreraient jamais. On peut ainsi se confronter à l'histoire du lieu.
auseinanderzusetzen beginne.
Les églises devraient être très fréquentées demain encore, car il fera de nouveau près de 35 degrés dans la capitale autrichienne.
Isorias à Vienne. Il a été ministre sous Bourguiba, président de l'Assemblée sous Ben Ali. Il restera toutefois le premier président élu au suffrage universel en Tunisie. Béji Caïd Essebsi est mort ce matin à l'âge de 92 ans. On retrouve Michel Picard à Tunis. Ce décès a été annoncé soudainement, mais ce n'était pas une surprise pour le pays.
La mort du président Essebsi est certes arrivée soudainement. Il a été hospitalisé hier après-midi, mais elle n'a pas surpris les Tunisiennes et Tunisiens. L'homme qui aurait fêté ses 93 ans en novembre était en soins intensifs avec de très grandes difficultés respiratoires. C'était son troisième séjour en à peine plus d'un mois. Au début de juillet, il était sorti très affaibli, pouvant à peine parler, ne pouvant plus marcher, d'une hospitalisation de 4 jours. Les deux apparitions médiatiques qu'il avait faites depuis avaient fait prendre conscience de la fragilité de l'homme qui occupe le palais de Carthage depuis bientôt 5 ans. Son mandat touchait en effet à sa fin. L'élection présidentielle était prévue le 17 novembre prochain, autant dire que la date devrait changer. En effet, une vacance ne doit pas excéder 3 mois au pouvoir. C'est Mohamed Nasser, le président de l'ARP, l'Assemblée des représentants du peuple, qui devrait prendre la place provisoire de chef de l'État. L'homme, respecté et consensuel, est âgé de 85 ans. La désignation d'un successeur de transition devait en théorie passer par une décision de la Cour constitutionnelle, mais cette Cour n'a jamais vu le jour depuis la révolution de 2011. Pour l'heure, dans la rue, on s'interroge sur la solidité de cette période de transition en pleine campagne électorale pour les législatives prévues en octobre. On devrait assister dans les heures qui viennent à des déclarations consensuelles respectant le deuil avant la reprise des tractations politiques pour forger l'avenir de cette jeune démocratie.
Effectivement, Michel, la date de l'élection présidentielle sera bien avancée, confirmé il y a peu le président de l'instance supérieure indépendante des élections. Donc il ne devrait pas y avoir de grosses vacances du pouvoir.
Finalement, la transition au palais de Carthage se fait pour l'heure sans encombre. Les dissensions au sein de la classe politique ont laissé place à une unité rare. Le président du Parlement, Mohamed Nasser, est désormais président par intérim. Les institutions n'ont pas connu de coup d'arrêt. Peu avant sa mort, le chef de l'État avait refusé de promulguer une modification de la loi électorale, pourtant votée par le Parlement, qui prévoyait d'exclure plusieurs candidats. Un geste avait justifié la présidence pour éviter les divisions. Avec la disparition du président Essebsi, sa succession à la prochaine élection présidentielle risque donc d'être animée. Selon la Constitution, en cas de vacance définitive du pouvoir, le président par intérim ne peut exercer pendant plus de 3 mois. Si le scrutin était anticipé, il risquerait de se dérouler avant les législatives d'octobre. Tout changement d'équilibre en pleine transition démocratique mettra à rude épreuve la résilience dont le peuple tunisien a jusqu'à présent fait preuve.
Michel Picard à Tunis. Et demain, les matins de France Culture reviendront en longueur sur les conséquences de la mort du président tunisien. Le Brexit dur se précise. Boris Johnson vient de s'exprimer devant les députés pour son deuxième jour dans la peau du chef du gouvernement britannique. Bojo qualifie l'accord de retrait inacceptable. Il réclame aussi l'abolition du filet de sécurité irlandais pour éviter le retour d'une frontière avec l'Irlande. Le nouveau Premier ministre demande également que son gouvernement fasse une priorité des préparatifs pour un possible no deal, une sortie de l'Union européenne sans accord. Nouvel échec pour Pedro Sanchez, vainqueur des élections législatives. Le socialiste a échoué à former une coalition avec Podemos. La gauche est restée divisée et cet après-midi, les députés ne lui ont pas accordé leur confiance. Les parlementaires ont encore 2 mois pour faire émerger une majorité, faute de quoi des élections anticipées seront convoquées en novembre. Mathieu de Taillac.
124 votes oui, 155 non, 67 abstentions et 4 votes non émis. Pedro Sanchez a perdu cet après-midi le second tour de la session d'investiture. Les négociations lancées il y a une semaine entre le Parti Socialiste, le PSOE et Podemos, de gauche radicale, se sont prolongées jusqu'aux dernières minutes précédant le vote. Pablo Iglesias, le chef de file de Podemos, a lancé depuis la tribune une dernière proposition de répartition des ministères. Offre rejetée par les socialistes. Ces derniers trouvent Podemos trop exigeant. « Vous voulez un gouvernement à l'intérieur du gouvernement », leur a lancé Sanchez. La gauche radicale exigeait de véritables compétences au lieu de ministères vides, comme a dit Iglesias. Les petits partis favorables à un gouvernement de gauche ont appelé Podemos et PSOE à reprendre les négociations au plus vite. Si aucune majorité n'émerge d'ici le 23 septembre, des élections anticipées auront lieu le 10 novembre prochain.
À Madrid, Mathieu de Taillac pour France Culture. Le plomb de Notre-Dame, le chantier de la cathédrale parisienne, est interrompu à partir de ce soir pour quelques jours sur décision du préfet. Selon un rapport de l'inspection du travail, au vu de la pollution, les règles de précaution ne sont pas appliquées. C'est aussi par précaution que la mairie de Paris ferme deux écoles. L'agence régionale de santé avait fait des relevés montrant également une pollution au plomb dans ces établissements qui accueillaient encore 180 enfants pendant l'été en tant que centre de loisirs. Ces deux mesures interviennent pourtant trop tardivement pour Jackie Bonnemain. Le président de l'association de protection de l'environnement Robin Desbois alerte depuis l'incendie d'avril dernier sur les concentrations de poussière de plomb.
Il y a une sous-estimation et une méconnaissance des pouvoirs publics apparemment et de l'opinion publique sur le fait que les poussières sont là, qu'elles se transportent, qu'elles sont remobilisées par la circulation automobile et la circulation des piétons. Maintenant, il y a des tonnes de poussière sur la voirie parisienne, sur les quais parisiens et surtout et aussi la cathédrale en elle-même est un réservoir important de poussière de plomb. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les travaux sont soi-disant suspendus pendant plusieurs jours. À notre avis, ils devraient être suspendus pendant plusieurs semaines. C'est pas en quelques jours que des modalités fiables vont être écrites, appliquées pour protéger les travailleurs dont jusqu'alors la santé a été complètement négligé.
Jackie Bonnemain, président de Robin des Bois avec Maxime Fayol. La guerre des étoiles, ou plutôt des satellites. Florence Parly a concrétisé aujourd'hui les annonces du 14 juillet d'Emmanuel Macron. La ministre des Armées était à Lyon, devant les militaires de la base 942. Le nouveau commandement de l'espace sera basé à Toulouse à partir de septembre. Dans un premier temps, 220 personnes y seront affectées. Leur mission, défendre les intérêts français au-delà de l'atmosphère, Nathalie Charbonnier.
C'est le nouveau Far West des années 2020. L'espace et notamment les milliers de satellites qui gravitent dans le ciel, 2000 aujourd'hui, 7000 et plus à l'avenir. L'espace se démocratise, mais surtout devient un enjeu stratégique avec des menaces. Dernier exemple en date, l'espionnage d'un satellite russe. Conséquence, la France se dote d'une nouvelle doctrine, celle d'ouvrir la porte de l'espace aux militaires, mais dans un but exclusivement défensif, a tenu à rappeler la ministre Florence Parly.
La défense active, cela n'a rien d'une stratégie offensive. Ce dont il s'agit, c'est d'autodéfense. C'est lorsqu'un acte hostile a été détecté, pouvoir y répondre de façon adaptée et proportionnée en conformité avec les principes du droit international.
Et pour pouvoir se défendre dans l'espace et faire la guerre, la loi devra être adaptée dans les mois à venir.
Nathanaël Charbonnier. La BCE, la Banque Centrale Européenne, ne baissera pas ses taux ce mois-ci, mais elle a ouvert la porte à une série de mesures anti-crise, mesures qui pourraient être annoncées lors de sa prochaine réunion dans deux mois. Son président Mario Draghi a dressé un tableau très sombre de la situation économique dans la zone euro. Et cette situation, Marie Viennot, explique la nécessité pour la BCE d'agir en septembre.
Oui, la BCE confirme que les perspectives économiques sont inquiétantes. Pour le secteur manufacturier, elles sont même de pire en pire, a dit Mario Draghi, le président de la BCE. Alors tous les indicateurs sont mauvais, carnet de commandes de moins en moins rempli, morale des industriels de plus en plus pessimiste. C'est surtout l'Allemagne qui est affectée, car c'est le pays d'Europe le plus tourné vers l'international. Or, il y a un ralentissement global du commerce mondial, le risque de plus en plus grand d'un Brexit sans accord et l'épée de Damoclès agitée par Donald Trump de possible taxe sur les importations de voitures allemandes. Ce qui ne va pas non plus, c'est l'inflation qui reste bien en deçà des 2%. Beaucoup d'inflation, c'est un problème, mais peu d'inflation, c'est aussi un problème quand on a beaucoup de dettes, ce qui est le cas dans la zone euro, notamment pour la France et l'Italie. Les prix et les salaires n'augmentent pas assez pour faire monter l'inflation, alors que depuis des années, la BCE injecte des milliers de milliards d'euros dans le circuit monétaire, ce qui montre donc aussi sa relative impuissance. Pour autant, la Banque Centrale Européenne va poursuivre cette politique que l'on dit accommodante, parce qu'elle maintient le loyer de l'argent et donc les taux d'intérêt à des niveaux très bas. pas. En septembre sera annoncée vraisemblablement une baisse des taux et la BCE a dit même examiner encore d'autres options. Le problème des taux bas, c'est que notamment cela nourrit des bulles spéculatives et en cherchant à prévenir un ralentissement économique, la BCE sème potentiellement les graines de la prochaine crise. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis la crise financière il y a 11 ans, c'est même le lot de quasi toutes les banques centrales.
Marie Viennot. Un coup d'œil sur la météo. La baisse des températures sera spectaculaire à partir de demain sur l'ouest du pays. Une baisse qui pourra atteindre plus de 15 degrés en Normandie, dans les Pays de la Loire. La canicule persistera en revanche jusqu'à demain soir ou samedi matin dans l'est. La fin de cet épisode caniculaire, le deuxième en moins d'un mois, sera accompagnée d'orages localement forts et porteurs de grêle demain sur l'ouest et samedi dans l'est. C'est la fin de cette édition préparée avec Jean-François Braun. Prochain journal de la rédaction à 22h avec Ezekiel Fernandez.